il y a déjà baisse des transferts des migrants, puisque les migrants sont les premiers touchés par la crise dans les pays industriels et dans les pays émergents. Il y aura également un effet parce que l'aide publique au développement, surtout dans sa partie, donc, va baisser et est en train de baisser, sauf s'il y a une relève, effectivement, des politiques des États ou des organisations multilatérales. Il y aura également baisse des investissements directs étrangers. On le voit notamment dans le domaine minier, dans le domaine forestier, un petit peu moins dans le domaine pétrolier. Mais le grand canal de transmission de la crise, c'est d'une part peut-être un effet court terme, mais en tout cas l'effondrement des prix des matières premières, à part l'or ou à part le cacao. Or, les pays africains sont à 95% exportateurs de produits primaires. On a un deuxième effet qui est la diminution de la demande des produits africains de la part des États-Unis, de la part de l'Europe, avec un rôle limité pour l'instant de relais des pays émergents, notamment de la Chine. Et comme en plus on est dans des anticipations, disons, pessimistes, eh bien on a un effet de contagion de la crise qui se manifeste en Afrique.
Quels sont les pays qui sont le plus touchés par cette crise et quels sont ceux qui sont, bien sûr, le moins touchés par cette crise, s'il en existe ?
La RDC, qui en plus est en très grave crise politique, qui est un scandale géologique, mais également un lieu de pillage de ses richesses. La Zambie, qui produit du cuivre, est également directement touchée. Vous avez des pays qui, au contraire, sont moins impactés. Le Ghana a certes un déficit public important, mais le Ghana a bénéficié de la crise ivoirienne, puisque la crise ivoirienne s'est répercutée par une augmentation du prix du cacao.
Quels sont en fait les moyens dont disposent le FMI ou la Banque mondiale, ou même d'autres organismes économiques, mais peut-être aussi les gouvernements occidentaux, pour venir en aide à l'Afrique aujourd'hui ?
D'abord, il faut savoir que la relance de l'économie africaine est aussi une manière de relancer, pour une petite part, mais quand même pour une part, l'économie mondiale. Donc, la proposition de Zoellick, le président de la Banque mondiale, qu'une partie des plans de relance des pays industriels et des pays émergents soit consacrée à l'Afrique, c'est à mon avis une proposition extrêmement intéressante, vu l'ampleur des plans de relance et le montant de l'aide à l'Afrique, c'est 50 milliards de dollars, on est loin des plans de relance des États-Unis, de la Chine ou même de l'Europe. Que l'on ait des lignes de crédit, notamment de la Banque mondiale, ou des prêts assurés par le FMI, qui permettent aux banques de prendre le risque de l'investissement, notamment vis-à-vis des petites et moyennes entreprises africaines. Le FMI a fait notamment une prévision avec la Banque mondiale qui avait des risques de 700 000 mortalité infantile de plus en 2009 si des mesures de relance n'étaient pas prises. Donc quand on connaît ces chiffres, il faut souhaiter bien entendu qu'on n'ait pas des politiques d'ajustement par le bas.
Est-ce que le prochain sommet économique du G20 prévu pour avril sera décisif pour l'Afrique ?
L'Afrique ne doit pas être abandonnée du G20. Ceci étant, on peut quand même être assez pessimiste parce que la réunion du G20 de Doha n'a pas montré que les pays d'où est partie la crise étaient très concernés par la situation des pays les plus pauvres. Et donc l'Afrique avait été notamment largement oubliée des débats de Doha. Est-ce qu'elle sera présente à la réunion du G20 d'avril ? Point d'interrogation. Et est-ce qu'elle sera prise en compte en juillet lors de la réunion du G8 ? Là encore, il faut agir pour que la dimension de la gestion de la crise soit mondiale et pas simplement réservée aux nantis.